VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anna Albertson avec vous en ce mercredi 25 février 2015. Le fil conducteur ce matin au Togo. L'élection présidentielle a été fixée au 15 avril prochain.
Législative du 26 avril au Bénin, expiration cette nuit de la date butoir pour le dépôt des candidatures.
La confection des listes de candidats avec toutes les pièces y afférentes est une tâche très difficile.
L'émissaire américain Feingold demande à Kinshasa d'en finir avec les FDLR.
Ici aux États-Unis, le tueur de Trayvon Martin ne sera pas poursuivi pour violation des droits civiques.
Et dans la partie magazine, gros plan sur le film malien Rapt à Bamako.
Tous les cinéastes africains, je les considère comme des gens qui font des films engagés parce que c'est des films qui portent sur nos problèmes de misère, de paupérisation, de maladies, d'endémies, de conflits.
Également au programme, la page de l'économie et le billet sportif.
C'est donc décidé au Togo. Le scrutin présidentiel aura lieu le 15 avril prochain. Décision du gouvernement prise lors du Conseil des ministres hier. L'AFP rapporte que le président Faure Gnassingbé devrait être désigné ce mercredi candidat officiel à un troisième mandat de 5 ans lors de la réunion de son parti de l'Union pour la République. Ce que contestent l'opposition et la société civile, même si la limitation des mandats a été supprimée en 2002. Autre décision, chaque candidat devra verser une caution de 20 millions de francs CFA et le montant total du financement public de la campagne électorale a été fixé à 600 millions de francs CFA.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo doit à son peuple de faire cesser la rébellion des Hutus rwandais des FDLR dans l'est du pays. C'est l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la RDC, Russ Feingold, qui l'a dit hier, tel que le rapporte à l'AFP. C'était au lancement par l'armée congolaise d'opérations contre ces rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda. Se débarrasser de cette menace était une responsabilité internationale, a encore déclaré le responsable américain qui doit démissionner de son poste dans les prochaines semaines.
Au Nigeria, les récentes attaques de Boko Haram n'ont pas altéré l'optimisme du président sortant. Goodluck Jonathan maintient que l'armée gagne du terrain face aux islamistes. Ces derniers ont perpétré hier un double attentat meurtrier dans le nord-est du pays. Morgane Guiriac.
Le président nigérian assure la population que le temps du deuil pour les victimes des attaques terroristes sera bientôt derrière eux. Le vent est en train de tourner en défaveur de Boko Haram, prédit le communiqué de la présidence nigériane cité par l'AFP. Ces déclarations interviennent en pleine campagne pour les élections du 28 mars. Le gouvernement d'Abuja affirme avoir repris Monguno et Baga, deux localités stratégiques aux mains des insurgés islamistes. Avancées qui n'ont pas empêché les attentats d'hier. Une explosion dans un bus a fait au moins 27 morts près de Potiskum, dans le nord-est du pays. Quelques heures plus tard, un double attentat suicide à Kano a fait au moins 10 morts.
Oui, Boko Haram qui a contraint le gouvernement du Niger à prolonger l'état d'urgence dans la région de Diffa, à la frontière avec le Nigeria, comme nous allons l'entendre dans son compte-rendu de Félix Yepassé Zembrou.
Niamey avait décrété à partir du 11 février pour un délai de 15 jours l'état d'urgence dans la région de Diffa. La prorogation a été décidée en Conseil des ministres extraordinaire pour une durée non précisée, mais doit être validée par l'Assemblée nationale. L'état d'urgence accorde aux forces de sécurité des pouvoirs supplémentaires comme des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Plus de 160 membres présumés de Boko Haram, dont Kaka Bounou, un natif de Diffa, présenté comme banquier des islamistes, ont été arrêtés. Mardi, deux soldats nigériens sont morts lorsque leur véhicule a sauté sur une mine à Bosso, à une centaine de kilomètres de Diffa. 7 soldats et 15 combattants de Boko Haram ont été tués vendredi dans des combats sur l'île nigérienne de Karamka, sur le lac Tchad. Quelques 3000 soldats nigériens sont massés dans la région de Diffa pour contrer les djihadistes.
Le président Barack Obama a désigné Catherine Danani comme premier ambassadeur des États-Unis en Somalie depuis 1991, une nomination qualifiée d'historique par le Département d'État, mais qui devra toutefois être confirmée par le Sénat américain.
Les États-Unis ont soumis hier à leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui prévoit d'imposer des sanctions aux belligérants au Soudan du Sud, ravagé par une guerre civile et des massacres interethniques. La correspondante de la VOA, Margaret Béchir, Bashir a recueilli la réaction du directeur de Human Rights Watch pour les Nations Unies à New York, Philippe Bolopion.
On pense que le Conseil de sécurité aurait dû, il y a déjà très longtemps, imposer un embargo sur les armes dans le Soudan du Sud et des sanctions individuelles contre les personnes qui sont impliquées dans des crimes graves. Il y a des crimes horribles qui ont été commis contre les civils pendant des mois et des mois au Soudan du Sud en toute impunité. Et donc on ne peut que se réjouir de voir que le Conseil de sécurité enfin étudie des mesures qui sont de nature à envoyer un signal fort.
Nous vous l'annoncions hier, des experts onusiens recommandent le recours aux drones dans la plupart des missions de maintien de la paix de l'ONU, un outil technologique à même de pouvoir apporter plus de visibilité dans les zones de conflit. D'autres précisions ce matin avec Salwa Jafari.
Un œil discret, mais contraignant et surtout plus sûr au-dessus des zones de conflit. Décidément, la technologie des drones continue de séduire. L'ONU fait désormais partie des demandeurs. Les engins devraient mieux protéger les civils, protéger aussi ces casques bleus. Les Nations Unies n'ont jamais eu autant de personnel déployé en Afrique, plus de 10 000 depuis 2013. L'expérience des drones a déjà porté ses fruits en République démocratique du Congo, où les engins de surveillance suivent les mouvements des groupes rebelles dans l'est du pays. Reste à élargir leurs horizons, envoyer ces appareils au-dessus du Nigeria, du Mali, du Soudan et autres zones de conflit. Les experts recommandent également la création de missions techniques chargées de renseigner le Conseil de sécurité sur les situations de crise à l'aide d'images, satellites et autres outils modernes de collecte de données en temps réel. Seul bémol, ces nouvelles technologies risquent de se heurter à des réticences des pays accueillants, les missions onusiennes, qui pourraient y voir une ingérence dans leurs affaires internes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La crise en Ukraine, une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l'Ukraine, de l'Allemagne et la France s'est terminée mardi soir sur un désaccord quant à savoir qui est à blâmer pour les violations du cessez-le-feu dans l'Est ukrainien. Nathalie Barge.
Les hauts diplomates se sont réunis à Paris dans l'incertitude sur l'accord de cessez-le-feu qui exige le retrait des armes lourdes des lignes de front. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a reconnu que les discussions étaient difficiles. Son homologue ukrainien Pavlo Klimkin a dit qu'ils se sont entendus sur certains aspects techniques, y compris le soutien d'une mission de surveillance de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, mais ne se sont pas entendus sur qui blâmer pour avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que le débat était principalement axé sur la mise en œuvre de l'accord de paix. S'exprimant dans la soirée devant une sous-commission budgétaire du Sénat américain, le secrétaire d'État John Kerry a déclaré que la Russie a menti plusieurs fois à propos de ses activités en Ukraine. Quant au Premier ministre britannique David Cameron, il a déclaré que l'échec de freiner la Russie en Ukraine entraînerait la déstabilisation de la Moldavie et des États baltes.
L'année 2014 a été catastrophique pour les victimes civiles de conflits, souligne Amnesty International, en qualifiant de scandaleuse et inopérante la réponse de la communauté internationale à ces violences dans son rapport annuel publié mercredi. Au cours de cette année exceptionnellement chargée en conflits, Syrie, Ukraine, Gaza, Nigeria, etc., des millions de civils ont été tués et 15 millions de personnes ont été déplacées, ce qui constitue probablement le plus grand nombre de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, a fait remarquer Salil Chetty, secrétaire général de l'Organisation de défense des droits de l'homme, dans une conférence de presse à Londres.
Une fusillade en République tchèque a fait 9 morts, dont le tireur. L'homme a ouvert le feu hier dans un restaurant de la ville d'Uherský Brod. Les autorités ont exclu un acte terroriste.
L'affaire Trayvon Martin, ici aux États-Unis, la justice fédérale a décidé de ne pas poursuivre George Zimmerman. L'ancien vigile avait abattu le jeune Trayvon Martin, un Africain-américain. C'était en 2012 dans l'État de Floride. Eddie Isango.
Selon un communiqué du ministre de la Justice Eric Holder, une enquête a conclu qu'il n'y a pas assez de preuves pour inculper George Zimmerman de violation des droits civiques. L'ancien vigile faisait une ronde dans son quartier de Sanford en Floride quand il a tué le 26 février 2012 Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans. L'affaire avait ravivé les tensions raciales en 2013 après l'acquittement de George Zimmerman. Un jury populaire avait décidé que c'était un cas de légitime défense. Après ce drame, Les ministères de la Justice avaient ouvert une enquête. Des limiers ont interrogé 75 témoins, réexaminé les analyses balistiques, réétudié les différentes autopsies et l'ensemble des dépositions des policiers. Ils ont conclu qu'il n'y a pas assez de preuves pour inculper Zimmermann des crimes racistes. Cette décision intervient après de multiples bavures policières contre des Noirs aux États-Unis.
Toujours aux États-Unis, le président Obama a opposé son veto à la loi autorisant l'oléoduc Keystone XL. Votée par le Congrès à majorité républicaine, la législation permettait la construction de ce projet de pipeline controversé entre le Canada et les États-Unis. Et maintenant, un résumé de l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde, la Minute Éco avec Bagasikoura.
La Côte d'Ivoire va mobiliser 1 046 milliards de francs CFA sur les marchés financiers en 2015. C'est ce qu'a annoncé le directeur général adjoint du Trésor public et de la comptabilité de la Côte d'Ivoire, Jacques Conan Assaoré, cité par l'agence APA. Selon lui, cette somme servira à financer le dernier virage du pays vers l'émergence à l'horizon 2020. Le gouvernement ivoirien a décidé de consacrer cette année 1 534 milliards de francs CFA, soit 31% du budget de l'État, à la réalisation d'importants projets d'investissement, a déclaré M. Assaoré. Une grève se poursuit depuis plus de 3 semaines dans la principale mine de fer de la Mauritanie, à Zouérat, dans le nord, où se concentre l'essentiel de la production de fer du pays. Le fer constitue l'essentiel des exportations de la Mauritanie, qui en produit environ 12 millions de tonnes par an. Écoutez le syndicaliste Mokhtar Aliba de la CGTM.
C'est la principale entreprise du pays qui représente un gros morceau dans le budget de l'État. L'État est l'actionnaire majoritaire. L'État est gardien du respect des lois. La moindre des choses entre un employeur et ses employés, c'est de négocier.
56 orpailleurs clandestins zimbabwéens ont été arrêtés après des échauffourées avec la police qui ont fait 2 morts et plusieurs blessés dans le centre du Mozambique. C'est ce qu'a annoncé mardi la police mozambicaine citée par l'agence France Presse. Et puis enfin, l'Afrique du Sud, affectée par des grèves puis par des coupures d'électricité. L'économie sud-africaine a une fois de plus dessus en 2014 avec un taux de croissance de 1,5%.
Merci Bagassi, c'était la Minute Éco. Ce qui retient l'attention ce matin dans le monde sportif, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
En Europe, suite des 8e de finale de la Ligue des Champions.
Oui, le Borussia Dortmund du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'incline demain en Italie sur la pelouse de la Juventus de Turin. En Angleterre, Luis Suarez, auteur d'un doublé, permet au FC Barcelone de s'imposer 2-1 sur le terrain de Manchester City.
Cannes des moins de 17 ans au Niger.
Place à la première demi-finale ce mercredi entre l'Afrique du Sud et le Nigeria.
Premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique de beach soccer.
La Tanzanie et l'île Maurice, ça va vous faire plaisir, se sont qualifiées sur le sable. Déjà victorieuse à l'aller, la Tanzanie a récidivé chez elle en s'imposant devant le Kenya par 7-6. L'autre rencontre a vu le succès en déplacement de Maurice, 5-2. À l'aller, ce fut l'inverse, les Mozambicains l'ayant emporté. Un but a fait la différence et le bonheur des Mauriciens. 6 matchs et non 7 sont programmés au second tour, le Nigeria étant qualifié à la suite du retrait de la Libye. Je vous rappelle que le championnat d'Afrique se déroulera du 14 au 19 avril aux Seychelles.
La Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera vraisemblablement en novembre-décembre prochain.
Le patron de la Ligue allemande de football, Andreas Rettig, a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact sur les championnats et sur les joueurs européens. Présent à Doha en qualité de président de l'Association européenne des clubs, Karl-Heinz Rummenigge n'a pas été surpris par l'annonce de la FIFA. C'était même plutôt attendu selon lui, mais il a insisté sur les conséquences financières d'une telle reprogrammation. La NBA à présent, Jacques, avec vous, les résultats du championnat de basket nord-américain cette nuit.
Oui Nicolas, 4 matchs au programme. Golden State a battu Washington 114-107. Défaite de Détroit face à Cleveland 93-102. Victoire d'Oklahoma City sur Indiana 105-92. Et enfin, victoire de Dallas face à Toronto 99-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Vous êtes toujours branchés sur la VOA, émettant de Washington, Jacques Aristide au micro. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec la tranche magazine. Quelques chiffres pour commencer. 15 millions de dollars pour 200 000 agriculteurs en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un financement d'urgence de la Banque mondiale afin d'éviter la famine dans les régions touchées par l'Ebola. Le déblocage de cette enveloppe va permettre de fournir à temps pour les semailles d'avril 10 500 tonnes de semences de maïs et de riz. Ce sont plus d'un million de personnes qui pourraient être mises à l'abri de la faim. Claire Morin-Gébourg a joint Abdoulaye Touré, responsable du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, à la Banque mondiale.
La pandémie d'Ebola a eu quand même un impact important sur le milieu rural, les producteurs en particulier. Selon les estimations de la FAO, environ 470 000 personnes pourraient être touchées par l'insécurité alimentaire en Guinée et 300 000 personnes au Libéria. Et environ 280 000 personnes en Sierra Leone. Nous estimons qu'environ près d'un million de personnes sont vraiment dans une situation très difficile parce que avec l'épidémie Ebola, en fait, l'impact a été qu'il n'y avait plus de marché, il n'y avait plus de circulation, la commercialisation a été arrêtée, les producteurs ne pouvaient plus se regrouper, les groupes de travail qui vont pour faire les récoltes dans les champs ne pouvaient plus partir. Donc soit les récoltes ont été perdues, soit elles ont été consommées et toutes les semences qui devaient être utilisées pour la campagne prochaine ont été aussi consommées. Donc c'était un impact très sérieux sur l'agriculture, notamment au niveau des cultures vivrières principales qui sont donc la base de l'alimentation dans ces trois pays.
Face à cette situation vraiment alarmante, la Banque mondiale a décidé d'avoir un financement d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, dès que la situation s'est passée, on a commencé à réfléchir à l'impact et comment, disons, organiser un peu une réponse pour mitiguer l'effet d'Ebola. Donc la banque a pu mobiliser 15 millions de dollars pour appuyer les trois pays, notamment pour aider les producteurs à reconstituer donc leur capital agricole, particulièrement les semences qui sont la base de l'agriculture, mais en profitant de l'opportunité pour leur délivrer des semences certifiées, des semences de bonne qualité améliorée qui répondent donc à leur situation agroécologique. Et d'autre part également d'approvisionner les producteurs semenciers et les compagnies semencières avec des semences de base pour leur permettre de reprendre le système de multiplication des semences pour être autonomes dans le futur. Donc on a une approche court terme et une approche moyen et long terme.
Abdoulaye Touré, responsable du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale, il était joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Au Bénin, véritable course contre la montre hier mardi pour le dépôt des candidatures en vue des élections législatives du 26 avril prochain. C'était le branle-bas de combat au sein des partis et alliances politiques désireux d'y prendre part. À peine quelques heures avant la fin du délai fatidique, arrivé à terme cette nuit à minuit, heure de Cotonou, là où nous retrouvons notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
Jusqu'à 23h heure locale, ce mardi, seulement trois alliances ont pu officiellement déposer leur liste. Pourquoi ce retard? Le président de la Commission électorale nationale autonome, fin connaisseur des sérailles politiques au Bénin, tente une explication. Emmanuel Tiando.
La confection des listes de candidats avec toutes les pièces y afférentes est une tâche très difficile. C'est suffisamment ardu. Et pour avoir vécu cette expérience-là, je présume que les partis politiques éprouvent ce genre de difficultés, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut constituer toutes les pièces. De toutes les façons, ce n'est pas nouveau, c'est un rituel. Depuis le renouveau démocratique, on constate que c'est à la dernière minute que les partis politiques arrivent à accorder leur violon.
Après l'enregistrement de leur dossier par la Sénat, les porteurs des listes de candidats peuvent pousser un ouf de soulagement et même s'étendre sur leurs atouts à cette élection. Germain Adjaro du parti Atao, Antoine Guédou de l'Alliance Peu et Cyriac Domingo de l'Alliance Éclaireur.
Le parti Réseau Atao a décidé de participer aux élections législatives du 26 avril 2015 prochain. C'est un parti qui a choisi comme vision principale le développement de notre pays. Un parti qui se décide pour que enfin notre pays connaisse le vrai développement.
Non. Pour ce qui nous concerne, nous allons nous battre. Et déjà, ce qui est constaté au niveau du dossier est exactement ce qui se fait sur le terrain. Une parfaite organisation. Nous allons nous battre, nous ne nous laisserons pas distraire.
J'ai été maire de ma commune avant d'être toujours élu député. Qu'est-ce que je vais craindre? Alors, la machine qui était branlée en 2007 et 2011, c'était plus fort que ce qui venait de se passer en 2015. C'est ma population qui va décider, c'est pas moi.
Pour le président de l'institution, organisatrice des législatives d'avril 2015, le plus dur commence après le dépôt des candidatures. Emmanuel Tiando.
Après le dépôt des dossiers de déclaration de candidature, il appartient maintenant à la Sénat de tout mettre en œuvre pour que ces dossiers-là soient examinés très rapidement, qu'on voit quels sont les dossiers qui sont recevables et puis qu'on publie la liste de ces candidats-là. La loi prévoit que c'est dans un délai de 8 jours après le dépôt des dossiers de candidature. Surtout, je le précise, c'est après le récépissé définitif qui est subordonné au paiement de la caution.
83 sièges sont à pourvoir par ces législatives pour un mandat de 4 ans. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Au Soudan, les combats dans les monts Nouba ont accru ces derniers mois le nombre de réfugiés au Soudan du Sud. Il y a maintenant sur le territoire de ce pays voisin 250 000 Soudanais. Le Soudan du Sud qui compte déjà 1 400 000 personnes à déplacer. Un correspondant de la VOA s'est récemment rendu au camp de Yida où se trouvent plus de 80 000 réfugiés soudanais. Son reportage vous est présenté par Eddy Sangou.
Le camp de Yida est situé dans l'état d'Unity au Soudan du Sud. Tous ces réfugiés ont fui le conflit qui fait rage de l'autre côté de la frontière dans l'état soudanais du Sud Kordofan. Explication des Rokonouri du HCR.
We have seen almost 100% increase.
Nous avons vu une augmentation de presque 100% des nouvelles arrivées par rapport à la même période en 2013 et 2014, c'est-à-dire entre 700 à 900 personnes par semaine.
Every week.
Les affrontements dans les monts Nouba opposent les forces de Khartoum aux rebelles du SPLA Nord depuis plus de 3 ans. Les combats au sol intensifiés par les bombardements de l'aviation soudanaise et une insécurité alimentaire ont ainsi forcé des milliers de familles à fuir. 70% environ des nouvelles arrivées sont des enfants. Témoignage d'Ibrahim Koukou, 8 ans. Les Antonov viennent jour et nuit, dit-il, tandis que Noéla Ismaélia, 10 ans, renchérit. Les aviations bombardent tout et tout le monde. Que tu fouilles ou pas, ils te bombardent et te tuent. Nous avions des voisins qui se cachaient chez eux et les Antonov ont bombardé leurs maisons et les ont tués. Les gouvernements du Soudan les dément, mais Yacoub Ousmane Kalouka, directeur du camp de Yida, affirme que Khartoum bombarde délibérément les civils pour les chasser de Kordofan Sud.
Leur objectif est de scare the people.
Leur objectif est de faire peur aux gens pour qu'ils fuient les régions contrôlées par les SPLA Nord. Et ils le font en brûlant champs et récoltes ainsi que leurs maisons, tout en les harcelant, afin de vider les monts Nouba de toute vie humaine pour en faire un no man's land. À Yida, il y a au moins la sécurité et les agences caritatives fournissent eau potable et soins de santé aux réfugiés. On ne sait pas quand ils pourront retourner chez eux, mais ils ne sont pas optimistes après l'échec des pourparlers de paix en 2014. Et les HCR s'apprêtent à ouvrir un autre camp pour accueillir la nouvelle vague des réfugiés que l'on prédit pour les prochains mois.
L'Afrique connectée, c'est le thème de Washington Forum. En quoi l'explosion des téléphones connectés à Internet a changé la vie des Africains? Les smartphones sont partout sur le continent, parlons-en. Laissez vos questions et commentaires sur notre page Facebook. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Rapt à Bamako, c'est le titre du long métrage qui portera les couleurs du Mali à la prochaine édition du FESPACO, le prestigieux festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Rapt à Bamako est signé Cheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture du Mali. Son film braque les projecteurs sur les pratiques décriées qui font surface à l'occasion des rendez-vous électoraux, tels que la corruption et le sacrifice humain. Un avant-goût avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Opération Rapt à Bamako, inspecteur Franky, je viens aux nouvelles, reprenez.
Rapt à Bamako est le sixième long métrage de Cheikh Oumar Sissoko qui défendra les couleurs du Mali à la 24e édition du FESPACO à Ouagadougou. Rapt à Bamako est une histoire qui mêle politique et fossé générationnel, le tout pendant une campagne électorale intense à Bamako. Cheikh Oumar Sissoko.
Nous en sommes à une situation en Afrique où cette mission s'impose à tous les cinéastes. Parler donc de ces africaines pour amener donc à une meilleure compréhension des droits et des devoirs. Tous les cinéastes africains, je les considère comme des gens qui font des films engagés parce que c'est des films qui portent sur nos problèmes. C'est ceux qui constituent des goulots d'étranglement qui ne permettent pas de stopper cette situation anachronique de misère, de paupérisation, de maladies, d'endémies, de conflits.
Les films relatent l'amitié de deux enfants sur fond de turbulences politiques électorales. Deux candidats se lancent dans la course pour la présidentielle. C'est ainsi que les pratiques malsaines commencent. Le recours à la science occulte avec le concours des candidats. Une observatrice des élections est kidnappée et le candidat n'hésite pas à sacrifier sa sœur albinos pour le pouvoir. Assetou Diallo et Magma Gabriel Konaté jouent dans le film.
Tout ça, ce ne sont que des croyances, ce n'est pas vrai et que même si c'était vrai, les albinos aussi ont droit à la vie.
Au-delà de ça, il faut que cela nous change de l'ordinaire des films africains. Parce que c'est pas des films d'action où c'est on est là, on est assis, on parle. Mais pour une fois, on a un autre genre.
Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur de Rapt à Bamako.
Rapt à Bamako, c'est une histoire qui se passe dans tous les pays africains. La voracité des adultes, des hommes politiques, pour le pouvoir, quels que soient les moyens à mettre en place, jusqu'au sacrifice de l'être humain. Mais aussi des enfants, des adolescents qui refusent une telle situation parce qu'ils ont une autre conception de la vie. Et il y a un enfant de la diaspora qui s'ajoute à un autre enfant du Sénégal et du Mali pour contrebalancer. Et il y a un conflit de génération qui se met en place.
Réalisé à 90% par le Centre National de la Cinématographie du Mali, il est aussi un mélange entre les anciens comédiens et les nouveaux. Le public se prononce sur Rapt à Bamako.
J'ai retenu l'histoire de la petite dame, c'est de l'albinos qui m'a beaucoup touché.
C'est des jeunes garçons, des adolescents qui donnent des leçons de morale.
Rapt à Bamako est adapté du roman éponyme co-écrit par la Française Marie-Fleurette Hérette et Mandé Alpha Diarra du Mali.
Cheikh Oumar, il m'a soufflé, il m'a bluffé là, parce que d'une œuvre de jeunesse, il en a fait une œuvre de portée nationale et universelle.
Ce film colle à la réalité du moment, car 2015 est l'année des élections présidentielles dans beaucoup de pays africains. Moussa Wane, directeur du Centre National de la cinématographie du Mali.
Le scénario est très bien écrit et le thème porte sur les élections en Afrique. Nous avons pu avoir aussi un équipement bien écrit, par exemple pour les images. Donc, de très belles images. La musique est faite par Sekti Janasek, qui est musicien malien reconnu. Une mise en scène excellente. Nous pensons réellement que sur le plan esthétique, le film vraiment a toutes ses chances. Ce n'est pas par chauvisme, mais vraiment le film est très bien.
Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme du Mali.
C'est une grande preuve pour nous de tous nos efforts de faire du cinéma un outil de développement transversal.
Cheikh Oumar Sissoko, qui a eu son premier étalon du Yenega à 95 avec Guimba le Tyran, pourra-t-il rééditer son exploit 20 ans après?
Je ne sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est depuis que j'ai choisi le cinéma, c'est pour servir mon pays et le continent.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui. Anne Albertson était à la réalisation. John Ellison assurait la partie technique. C'était Jacques Aristide au micro. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée de mercredi sur la VOA. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.